toujours Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes pour laquelle je suis très heureux de vous retrouver, de vous rappeler que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, pertinente ou moins, les petites images qui bougent depuis un peu plus d'un siècle maintenant, sachant évidemment que dans 24 notes secondes, eh bien nous privilégions la pertinence, c'est-à-dire qu'on s'essaie à vous proposer de belles musiques de films, pour des films pas toujours à l'aune, mais il y a aussi l'inverse, c'est ça, l'alchimie qui se passe ou non. Disons que l'excellence, c'est de belles musiques pour de beaux films. On va s'y essayer ce jour avec un thème un peu lâche, si je puis dire, puisqu'il s'agira d'évoquer quelques films adaptés de grandes œuvres littéraires, pour la plupart anglo-saxonnes, toutes même anglo-saxonnes, comme vous allez pouvoir l'apprécier, de grandes œuvres littéraires issues tantôt du 19e, tantôt du 20e siècle. Et c'est du 19e que nous allons parler maintenant, en tout cas une œuvre littéraire publiée en 1891, 11 c'est mieux, et qui est considérée comme le chef-d'œuvre littéraire de Thomas Hardy, un roman qui s'appelle Tess d'Urberville et qui raconte la vie plutôt tragique d'une jeune fille séduite et abandonnée et à laquelle il arrive bien des malheurs tout au long du roman, de la même manière qu'il lui arrive bien des malheurs tout au long des presque 2h30, plus même de presque 2h30 de film, un film où Tess est interprétée par Nastassia Kinski, la délicieuse Nastassia Kinski, qu'on n'a pas vue sur les écrans, à ma souvenance, en tout cas depuis bien longtemps, et qui n'est rien d'autre aussi, mais elle a su s'en extraire, heureusement pour elle, que la fille de son père, l'habité comédien Klaus Kinski. En l'espèce, donc, le film inspiré de ce roman de Thomas Hardy, auquel on doit aussi, sauf erreur de ma part, Jus de l'obscur, voire Loin de la foule déchaînée, roman qui firent aussi l'objet d'adaptations cinématographiques, eh bien, en 1979, c'est Roman Polanski lui-même qui s'attela à cette tâche combien difficile et qui adapta le roman éponyme, comme l'on dit, de Thomas Hardy avec l'aide du regretté Gérard Braque. Pour le reste, eh bien, il sut s'entourer de la meilleure possible des distributions, que ce soit derrière ou devant l'écran, le tout, quoi qu'on peut considérer que le film soit français, le tout constituant une équipe quasi exclusivement anglo-saxonne. À la photo, on vit successivement Geoffrey Unsworth, pardonnez-moi, et Ghislain Cloquet dans l'interprétation aux côtés donc de Nastassia Kinski. Déjà cité, on retrouvait Peter Firth, Leigh Lawson et quelques autres. Pour envoyer même Ariel Dombal, dit ma petite fiche, c'est vous dire. Pour un résultat qui était, ma foi, plutôt réussi. Une adaptation, il est vrai, coûteuse, puisque le tournage du film dura 8 mois, puisqu'il se déroula au fil des saisons. 200 acteurs et techniciens dans 40 lieux différents, si vous voulez tout savoir, pour un tournage extrêmement soigné, de façon à reconstituer au mieux le paysage du Dorset de la fin du 19e, qui est évoqué dans le roman de Thomas Hardy. La musique de ce film, eh bien, était peut-être le seul aspect vraiment franco-français de la chose, puisqu'elle était signée du célébrissime Philippe Sard, qui connaissait l'or, ses années d'or, on le vit au générique de très grosses productions de l'époque, et qui signa bien évidemment pour Tess d'Urberville, une partition ample, lyrique, vaguement nostalgique, parfois amère, qui, à mon sens, convenait parfaitement au propos du film de Polanski. Et je vais vous laisser en juger en écoutant un large extrait, le générique de début de la bande originale de ce film, Tess de Roman Polanski, sur Divergence FM.
Thank you.
Un très large et très ample extrait de la bande originale de Tess, un film de Roman Polanski tourné en 1979, une musique de Philippe Sard. Et en écoutant, plutôt en réécoutant il y a bien longtemps, cette musique, eh bien, je me dis qu'effectivement Philippe Sard fut très certainement avec Georges Delerue, le regretté Georges Delerue, le plus grand compositeur de musique français des années 60-70, une partition extrêmement lyrique et qui le restait tout au long des 2h30 de ce film fleuve, plutôt bienvenu et que, curieusement et en tout cas à ma connaissance, on voit peu sur les écrans. Mais il faut dire que sur les écrans. Bref, passons à autre chose et donc restons sur le thème de ce jour, à savoir les adaptations à l'écran de romans. Et en l'espèce, nous allons écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné dans les quelque part au début du 21e siècle. Je vous retrouverai ça après le morceau. En tout cas, un film inspiré d'un roman de Michael Cunningham qui s'appelait The Hours, en français Les Heures, et qui, roman, racontait de manière extrêmement habile les destins d'abord séparés et ensuite entrelacés d'une manière subtile qu'on ne découvrait qu'à la fin, et c'est la même chose dans le film, d'une part de Virginia Woolf, d'autre part d'une jeune femme qui découvre ses, comment dire, ses tentations saphiques quelque part dans une Amérique très ordinaire de banlieue des années 50, et enfin la vie de l'accompagnatrice d'un poète qui est en train de mourir du sida quelque part dans les années 80. Alors trois récits qui se superposent et qui finissent par s'entrelacer, un résultat qu'on pourrait croire improbable mais qui en fait était entremêlé avec une grande habileté par Michael Cunningham et qui était restitué, ma foi, de façon plutôt convaincante à l'écran par Stephen Daldry, en tout cas beaucoup plus convaincante que quand le même adaptera à l'écran La Liseuse quelques années plus tard. Dans les rôles principaux de ce film, on retrouvait Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, donc c'est un axiome, un film qui réunit les susdites ne peut pas être mauvais, il peut même parfois être bon, et évidemment c'était le cas, personne je pense, en tout cas ceux qui l'ont vu, n'auront oublié la performance, comme disent les Américains, de Nicole Kidman dans le rôle de Virginia Woolf, avec une prothèse sur le nez bien évidemment. Puisque même si son visage s'approche de celui de Virginia Woolf, eh bien, il y avait quand même ce nez, comme dirait Cyrano. Alors, ça aurait pu être vaguement ridicule. En fait, c'était extrêmement émouvant les dernières années de la vie de l'auteur tourmenté de Mrs. Dalloway, un roman qui lui aussi servait de fil rouge à ses trois destins. Évidemment, les deux derniers destins, si je puis dire, inspirés par la vie tourmenté et tragique, c'est le moins qu'on puisse en dire, de Nicole Kidman alias Virginia Woolf. Un film américain très mainstream, personne ne le niera, mais plutôt convaincant à la fois dans son interprétation, dans son récit et aussi dans la musique, qui était signée du vieux routier Philip Glass. Alors Philip Glass, il n'y a pas deux écoles, on aime ou on déteste, en tout cas il fait toujours la même chose, je pense que lui-même ne le contestera pas, aussi bien dans ses opéras comme le bien connu Einstein on the Beach que dans ses musiques de films. Je crois vous avoir passé il y a quelques siècles la bande originale du Mishima de Paul Schrader, et bien ceux qui s'en souviennent ne seront pas dépaysés par The Hours. Ça ressemble mais ça dissemble, c'est toujours la même chose mais c'est toujours différent. C'est ça la belle musique de film, un extrait de la bande originale de The Hours, une musique de Philip Glass dans 24 notes secondes. Ah, je vous avais prévenu, c'est du Philippe Glass, on aime ou on n'aime pas. J'adore, il faut bien le dire, j'adore. Un extrait de la bande originale de The Hours, je ne pense pas qu'on avait jugé bon de traduire ça par les heures en français. Un film tourné en 2002, donc après vérification. Pendant que vous écoutiez ce morceau, un film donc qui réunissait dans les rôles principaux la Streep, la Kidman et l'amour. Bref, c'est joli ça, l'amour. Les trois plus glamour actrices d'Hollywood, quelque part au début du 21e siècle. Un film tout à fait réussi, comme l'est celui que nous allons évoquer maintenant. Là encore, une adaptation d'un roman, certes encore plus fameux que celui de Michael Cunningham, qui s'agit tout simplement d'Orgueil et Préjugés. Mesdames et messieurs, de la délicieuse indispensable Jane Austen. Alors là aussi, c'est pareil. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, je suis un fan absolu, même si je suis un garçon. Et oui, il y a aussi des garçons qui sont fans de Jane Austen. Certainement la plus grande romancière du 19e siècle, qui a écrit, sauf erreur de ma part, une dizaine de romans et qui raconte toujours la même histoire, celle d'une jeune fille qui a du mal à se marier et qui, à la fin, enfin non, pas tous, mais dans une grande part, se marie. Et c'est bien évidemment le cas d'Orgueil et Préjugés, qui raconte les démêlés, encore que le terme soit un peu rude, amoureuses des filles de la famille Bennet, qui en compte, sauf erreur de ma part, 5, et en particulier de l'une d'entre elles, Elizabeth Bennet, qui finit par rencontrer le grand amour avec M. Darcy. Alors, je fais un double coming out dans cette émission de 24 notes secondes, M. Darcy, d'une part. Premier coming out, c'est l'homme que j'aurais voulu être. Et je pense que Monsieur Darcy, c'est l'homme auquel rêve la majorité des filles. Un grand gars beau, ténébreux, honnête, mais un peu renfermé. Et qui finit évidemment par conquérir le cœur de la belle. Et évidemment, inversement, quand vous aurez, c'est mon deuxième coming out, appris que la belle en question est interprétée par la délicieusement sublimissime Keira Knightley. Donc en direct, dans 24 notes secondes ou presque, je me mets à genoux pour dire Keira. Je t'aime, certainement l'une des plus belles actrices du cinéma anglais-américain de ces dernières années. J'ai sous les yeux une photo absolument sublimissime du film tiré par Joey Wright de ce roman de Jane Austen, un film tourné en 2005 qui était la 9e adaptation d'Orgueil et Préjugés, qui fait partie de ces, je dirais, thèmes récurrents du cinéma anglais et de la télévision aussi anglaise qui adapte à tour de main. Il me semble que M. Darcy a été joué, fut un temps, par Colin Firth, qu'on retrouvait ensuite dans les adaptations de Bridget Jones. Vous vous souviendrez peut-être que l'homme auquel rêve Bridget Jones s'appelle M. Darcy. Tout ça n'est pas un hasard. Jane Austen et ses romans, c'est vraiment l'un des fondements de la société anglo-saxonne, avec tout ce qu'elle peut avoir d'exaspérant, mais aussi tout ce qu'elle peut avoir de romantique. Et le film de Joey Wright, qui ne connut pas un grand succès, en tout cas en France à son époque, je vous le dis, je vous l'assure, précipitez-vous, c'est une petite merveille qui réussit en un peu moins de 2 heures à résumer un roman qui, dans une bonne adaptation télé, en demanderait 7 ou 8, mais une petite merveille parfaitement interprétée par Keira Knightley et bien sûr par les autres, mais nous ne les citerons pas. Si, quand même, un petit mot sur Donald Sutherland, le père des dites filles, une petite merveille qui était accompagnée, oh, joie, oh, bonheur, dans 24 notes secondes, d'une musique signée par un illustre inconnu. Je me souviens encore, à la fin de la séance, je me suis précipité sur mon internet préféré pour découvrir qu'il s'agissait de la première musique de film de Dario Marianelli. Et il faut l'entendre pour le croire, une musique évidemment tout à fait romantique, avec, pour les amateurs, des compositions au piano performed, joué par Jean-Yves Thibaudet, un grand interprète de ces dernières années. Alors je vais vous proposer un petit extrait, je vous mets tout de suite ou presque dans l'ambiance. Nous sommes au petit matin et Elisabeth croit que Monsieur Darcy ne l'aime pas, et Monsieur Darcy croit qu'Elisabeth ne l'aime pas, mais tout d'un coup, qui surgit là-bas alors que le soleil se lève et que la rosée commence à perler sur les feuilles? Allez, musique. Thank you. Je suis en larmes, je viens de finir la boîte de Kleenex dans le studio de Divergence FM. Une autre boîte vide, s'il vous plaît, un extrait de la bande originale d'Orgueil et Préjugés, un film de Joy Wright, une musique de Dario Martinelli. Pour moi, une petite merveille, à la fois le film et la musique. J'espère vous avoir fait partager cet enthousiasme peut-être un peu débordant et vous avoir invité donc à lire Jane Austen, bien sûr. Croyez-moi, et personne ne m'en voudra, j'espère, ne lisez pas Christine Angot. Lisez Jane Austen, vous y gagnerez plus. Votre cœur sera enrichi, votre âme s'en portera mieux et tous vous diront merci. Merci de m'avoir invité à lire Jane Austen et aussi, évidemment, peut-être, à voir aussi les films adaptés de son œuvre, puisque c'est à ce thème, les films adaptés d'œuvres de romanciers américains, j'en bafouille, ou anglais, que nous consacrions cette émission de 24 notes secondes et sur lesquelles nous allons bien sûr finir. Je vais être rapide, alors là c'est quelque chose de tout à fait différent. Un roman signé de Jim Harrison, le grand poète des grands espaces du Montana, qui s'appelait Légende d'automne et qui s'appelle sans doute toujours Légende d'automne, adapté à la mode hollywoodienne avec dans les principaux rôles, excusez du peu, Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn et Julia Ormond. Alors des grands sentiments, une vaste fresque avec des amours contrariés, ma foi, le tout était un peu académique sous la direction d'Edward Zwick. Ah oui, ça compte beaucoup au Scrabble. Et la bande originale de ce film était signée de James Horner. On va s'en écouter sans plus attendre un large extrait, Légende d'automne sur Divergence FM. Thank you. Voilà, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lire Jane Austen. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.